J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire, hein. C'est vraiment un AV, ce film.
Vous voyez, je dois être bouleversé, fille.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Un très beau film, on n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel. Tous les jours, on en a plein les yeux.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Et ce soir, pour cette première émission, on parle d'Anatomie d'une chute avec vos critiques Chirine, Antoine et Lucie. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je présente rapidement le principe de cette émission. Une fois par semaine, on va essayer, la tribune des critiques débattra autour d'un ou de deux films en salle, puis chacun, chacune vous donnera son conseil de la semaine. Toujours en lien avec le cinéma, il pourra s'agir aussi bien d'une rétrospective que d'une exposition, d'un ouvrage, d'une sortie sur les plateformes ou en DVD, d'un anniversaire ou bien sûr tout simplement d'un film en salle. Et puis on espère pouvoir aussi bientôt placer dans l'émission une séquence d'interview d'une personnalité du milieu du cinéma, grand nom comme petite main. On attend donc que vous pour rejoindre l'équipe du Comptoir du Cinéma selon vos disponibilités et en toute liberté, puisque les critiques ne seront pas forcément les mêmes d'une semaine à l'autre. Bref, n'hésitez surtout pas et rejoignez-nous. Mais penchons-nous donc à présent sur Anatomie d'une chute, film qui a reçu la Palme d'Or à Cannes en mai dernier, ainsi que, et je vous assure que ça a son importance, la Palme Dog, qui récompense le meilleur chien des films en compétition au festival. Film de Justine Triet, donc, en salle depuis un mois, mais dont le succès ne semble pas devoir se démentir, Anatomie d'une chute commence sur les hauteurs de Grenoble, dans les Alpes, dans un chalet relativement isolé, où un homme est mort défenestré. C'est son fils de 11 ans, malvoyant, qui est incarné par l'incroyable jeune acteur qui est Milo Machado Graner, qui retrouve le cadavre. Seule la mère et la femme du mort, Sandra, qui est interprétée par Sandra Hüller, étaient présentes à ce moment-là à la maison, et sur elles vont bientôt se porter les soupçons de la police et surtout de la justice, les thèses de l'accident ou du suicide n'étant pas assez convaincantes pour s'imposer d'elles-mêmes, d'autant moins convaincantes que l'on découvre progressivement que les relations entre Sandra et son mari étaient pour le moins tendues. Après une heure de film environ, qui est une lente progression vers la mise en examen de Sandra, une ellipse permet de retrouver les personnages un an plus tard, alors que s'ouvre le procès qui devient vite le cœur du film. On suit donc ces scènes de tension, ces scènes inquiétantes, où l'on a presque l'impression de devenir soi-même injuré, et où s'enchaînent les débats entre l'avocat général, les témoins et la défense de Sandra, avec Swan Arlo dans le rôle de son avocat, le tout mené d'un rythme implacable jusqu'au verdict, si bien qu'on ne voit pas du tout les 2h30 passées, en tout cas pas moi. Alors je commencerai par vous demander votre avis un peu général avant d'aborder le film de façon un peu plus précise. Qu'est-ce que vous en avez pensé, par exemple, Lucie Bank?
Bien, moi j'ai beaucoup aimé, je trouve que le film est très bien écrit et en cela il se situe à la croisée de deux genres qu'il maîtrise parfaitement, à savoir le film de procès, hein, comme Anatomie d'un meurtre de Otto Preminger, dont il retient le titre, et aussi le film qui fait l'anatomie d'un couple, puisque c'est à peu près un genre en soi. Et si vous oscillez pendant le film entre différents points de vue, à la fois sur le couple et sur le procès en cours, je pense que le film est réussi, puisque c'est dans ce balancement, en quelque sorte très bien orchestré, que se situe aussi la finesse de l'écriture et de la réalisation de Justine Triet.
Merci. Antoine ?
Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. On a en effet un mélange assez fécond de deux genres, comme ça a été bien dit. On a vraiment l'impression de voir un hybride entre Scène de la vie conjugale de Bergman et de La vérité de Clouseau, et c'est vraiment très très bien réussi. Je suis d'accord sur la qualité d'écriture. Alors, j'aime pas trop commenter sur ça d'habitude, mais c'est vrai que les acteurs sont très bons. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé les tout crédibles, à un certain degré de réalisme. Et le fait de se plonger dans justement cette anatomie, dans cette analyse du couple, d'un couple qui, à mon sens, s'aime beaucoup, mais avec toutes les difficultés que ça implique, j'ai trouvé ça très pertinent. Et surtout, on ne voit pas les 2h30 passer, donc je ne peux que le recommander.
Moi, je partage votre avis, donc pas de pluralité d'opinion pour ce soir. Mais je trouve aussi que c'est un film qui dresse un portrait très sensible et très juste de l'enfance. Et c'est une des composantes du film auxquelles j'ai été la plus sensible. Il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup aimé, c'est en fait que c'est un film qui laisse le choix au spectateur, la possibilité d'adopter deux lectures qui sont aussi des postures politiques. Une lecture qui est celle qui est revendiquée par la cinéaste et qui est donc celle à laquelle je souscris plus naturellement, qui est une lecture féministe, où en fait on peut voir Sandra Hüller, enfin son personnage, comme une femme forte, une femme qui sait écrire, qui s'excuse pas, une femme qui vit sa sexualité, sa bisexualité de façon très décomplexée, qui a un rapport aussi assez décomplexé à la maternité et qui a au contraire un mari un petit peu plus fragile, donc qui semble déjouer un petit peu les narratifs classiques qu'on a autour du couple et qui est jugée par un jury et une société qui n'accepte pas sa façon très décomplexée de vivre sa vie. Donc on peut choisir cette posture-là ou alors adopter une posture un petit peu plus classique et voir ce film comme le film d'un procès quasiment documentaire. Et moi, c'est vraiment un aspect qui m'a passionnée pendant tout le film.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et notamment sur l'aspect politique très très important de ce film, qui finalement fait la chronique et le procès d'une certaine violence systémique, misogyne notamment, et qui, dans le côté finalement, autour de l'enquête notamment, m'a assez rappelé le film La Nuit du 12, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais qui d'ailleurs se passe aussi à Grenoble et qui traitait pareil par la question policière, la question d'une enquête, traitait aussi de ce quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes, pour reprendre une citation de La Nuit du 12, et plus généralement le naturalisme avec lequel Justine Triet regarde ce couple, regarde ce procès, est vraiment quelque chose d'assez frappant, ouais, de quasiment de l'autopsie finalement d'une société.
Oui, et c'est justement, je vais réagir, c'est justement, je trouve, par rapport à ce naturalisme qu'on peut facilement en dresser une grille politique, parce que tu parles justement du système patriarcal, etc., de toutes les violences qui puissent s'en dégager, mais si elle n'avait pas eu cette approche naturaliste, à mon sens, justement, de ne pas dresser cette anatomie du couple, de ne pas voir la réalité d'un couple telle qu'elle est, en fait, la grille politique aurait été beaucoup plus dure à plaquer. Parce que là, on voit la réalité des choses telles qu'elles sont, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Et beaucoup mieux, d'ailleurs, que La Nuit du 12, mais ça, pour des raisons personnelles, je n'ai pas vraiment aimé La Nuit du 12. Mais...
Je ne sais pas si on peut vraiment dire que ça dresse de façon naturaliste et réaliste, et qu'il n'y a pas de... que c'est transparent, en quelque sorte. Puisqu'en fait, le film, ce que ça nous montre, je trouve, c'est qu'une preuve, un moment, quelque chose, quoi que ce soit, ne dit rien de la complexité d'une relation. Et ce qu'on vous explique, c'est que le procès est pipé d'avance, qu'en quelque sorte, qu'elle soit innocente ou coupable, il faudra choisir les bons éléments pour le montrer. Et même dans sa vie, les actes ne comptent pas, dans la mesure où il y a une réalité où elle aurait pu le tuer. Il y a des moments de colère, il y a des moments où on dit des choses. Et ce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est pas toujours traité dans les films de procès, le fait que la preuve ne dit rien, en fait. Et là, c'est très bien montré, je trouve. Et je pense que c'est... C'est aussi, par exemple, vous faites des parallèles avec des films, et je pense à Saint-Omer, un film de procès qui a été fait juste avant. Et pour le coup, c'est une écrivaine qui décrypte une accusée d'une façon, pour le coup, plus documentaire, plus naturaliste. Et là, on a un peu l'inverse. C'est l'écrivaine qui est sur le... qui doit un peu justifier sa vie. Les gens essaient de faire des parallèles avec la fiction, avec des mots qu'elle a pu écrire, avec des trucs qui ont été fixés. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ça ne vous dira jamais rien, en fait. Et je trouve que c'est très bien montré dans le film.
Oui, je suis tout à fait d'accord. La question de la littérature dans le film est vraiment très très intéressante, qui met en question notamment l'autofiction et le regard qui est posé ici, avec la littérature qui est présentée comme une preuve, comme un élément à charge contre Sandra dans le film. Et puis c'est même d'ailleurs il y a beaucoup de violences différentes qui sont montrées dans ce film, mais une des plus intéressantes à mon avis, c'est dans le court extrait d'une émission qui est d'ailleurs le plateau de C'est ce soir avec Karim Rissouli, mais peu importe, et une plateau d'une émission où des gens débattent autour des livres et autour de la personnalité de Sandra, et qui disent notamment quelque chose, alors j'ai plus la citation exacte, mais qui était une écrivaine qui tue son mari, c'est beaucoup plus intéressant qu'un prof qui se suicide. Et effectivement, il y a toute cette question de la violence qui, moi, m'a vraiment... Enfin, de toutes sortes de violences qui ont été vraiment très intéressantes dans le film, donc notamment avec je pense aussi à la question de la communication et de la langue, qui a un rôle assez important aussi dans le film. Je ne sais pas si l'un de vous...
La langue, c'est assez flagrant parce qu'en fait, personne ne parle sa langue maternelle. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé une sorte de langue commune pour se communiquer, mais communiquer entre eux, pardon. du coup, c'est assez explicite de voir que personne ne parle la même langue. C'est-à-dire que le mari ne comprend absolument pas ce que dit Sandra. Et Sandra ne semble pas comprendre pourquoi son mari, notamment dans la scène de dispute, pourquoi son mari ne réagit comme ça. Donc, vraiment deux personnes qui ne peuvent plus se comprendre. Et ce qui va vraiment réussir finalement à faire l'intermédiaire entre les deux, et c'est cette fin qui est plus sublime avec l'enfant. L'enfant justement qui est le pilier entre les deux langues, à la fois la langue de sa mère et la langue de son père.
Oui, c'est très juste, je trouve, ce que tu dis, Antoine. Et moi, je voudrais ajouter quelque chose. C'est une phrase que j'ai lue sur Internet, je ne sais même plus vraiment où. Mais c'est quelqu'un qui commentait, qui disait « Dans un couple, il ne peut y avoir qu'un écrivain. » Et voilà, je voulais vous partager ça parce que j'ai trouvé ça amusant.
Oui, ben, non, je suis d'accord.
Oui, c'est assez intéressant, le rapport de frustration dans la création, en fait, quand on est un duo, qu'il y en a un qui réussit plus. Il y a plein de films qui racontent ça, mais celui-là raconte très bien, pour le coup. Et c'est amusant, parce que bah, là, vous citiez l'émission littéraire, mais c'est Arthur Harari, le mari de Justine Triet, qui joue l'intervieweur. Et justement, on se pose des questions sur quel est leur rapport, tous les deux. Ils font du cinéma, ils ont leur vie, leur succès. Donc on sent qu'il y a un peu de ça pour nourrir le discours qui est porté là-dessus. Mais ce que je trouve intéressant, pour moi aussi, on peut une citation du film La Haine, c'est ce n'est pas la chute qui importe, c'est l'atterrissage. Et je trouve que le film dit l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'en fout de l'impact. Ce qu'on veut nous raconter, c'est le processus, c'est la chute avant qu'on arrive là, en fait. Et je pense que c'est vraiment cette anatomie-là, la façon dont c'est raconté, la façon dont on va expliquer comment dans ce couple-là, on a pu partir d'un point pour arriver à ce point-là. Pour le coup, ça est très fine. Et le fait qu'il y ait le point de vue de l'enfant qui, finalement, est exposé à toute cette violence, à la voracité des médias, il lui dit d'ailleurs à la juge « T'inquiète, c'est pas grave si tu m'interdis le procès, je vais le voir sur Internet, en fait. » Et c'est même plus violent. Donc elle accepte qu'il regarde le procès et qu'il soit exposé à tous ces trucs d'adulte. Et ça passe par son plaidoyer final, où peut-être qu'il comprend quelque chose de la vie d'adulte, mais cette violence-là est intéressante de son point de vue.
Je suis tout à fait d'accord, et notamment heureusement qu'il y a cet enfant, donc Daniel, enfin le prénom du personnage, parce que effectivement il vient apporter ce qui moi serait presque, enfin le seul bémol que j'aurais apporté à ce film, qui est un comment dire, sans Daniel il y a un manque complet, on va dire, d'émotion à mon, enfin, et c'est la froideur volontaire et incroyable de l'actrice Sandra Hüller. Puisqu'en fait, on peut vraiment pas compter sur elle pour savoir, enfin, essayer de décrypter comment ce qu'elle dit, ses expressions, pour savoir si elle a ou non tué son mari. Cette froideur met aussi à distance toute forme, à mon avis, d'empathie, de chaleur humaine avec elle. Et la présence de Daniel permet effectivement de ramener, enfin, la fin est vraiment très très belle à cet égard, de ramener une humanité, une émotion à l'intérieur de ce film.
Je trouve qu'il y a aussi le personnage de l'avocat qui ramène beaucoup d'émotions, parce qu'on sent qu'il y a une histoire, peut-être une histoire d'amour entre lui et Sandra. Aussi qu'il est assez nerveux, pas tout à fait sûr de lui, c'est pas un ténor du barreau. Et je trouve que sa fragilité amène aussi de l'émotion.
Moi, je suis pas d'accord, vraiment. Enfin, je trouve qu'on a de l'empathie pour Sandra Hüller, qu'elle a une palette d'émotions qui est assez lisible sur les attaques qu'on lui porte. Et moi, j'ai pas de doute à la fin du film, je sais pas comment on le disait, mais le film me raconte une histoire et moi je marche dedans. Enfin, il y a quand même des choix qui sont faits dans le point de vue, notamment si on prend l'enfant, lui il a un point de vue parcellaire, c'est ça qui va être exploité, le fait qu'il soit à demi aveugle, le fait qu'il était pas là au moment du crime, etc. Mais moi pour le coup je pense que je suis avec elle, l'enfant je le trouve assez froid, enfin on est avec lui, mais il a une façon quand même d'être traité qui est pas facile. Non, c'est un enfant, justement la juge elle lui dit un moment ok, t'as fini de nous expliquer quoi, parce que le mec a tout compris, il parle comme un adulte, et ça c'est intéressant aussi, c'est d'avoir fait cet enfant celui qui essaie de rassembler les pièces du puzzle, qui est presque le meilleur enquêteur du film, même s'il y a sa version qui en fait elle y a l'émotion à la fin, et c'est quand même ça qui va primer, c'est son rapport à sa mère aussi.
Oui, je suis d'accord aussi en partie, même si effectivement je comment dire, les émotions de Sandra Hüller, moi, enfin, était très intéressante, mais justement très très cryptique en même temps, à mon avis. Non, et puis si, enfin, je voulais revenir aussi là-dessus, rapidement là-dessus, sur les performances des acteurs. L'acteur, bon, j'ai pas son nom, mais qui joue l'avocat général est
Antoine Reinhardt, je crois.
Merci beaucoup, qui est excellent, mais à se rendre odieux en fait.
Ouais,
et là, pour le coup, là, il y a vraiment, une émotion, mais on a envie qu'il se taise. c'est vraiment très très puissant. Ouais.
C'est vrai qu'il est à la fois agressif et doux. Je sais pas comment c'est possible.
Il a une voix nasillarde, un peu mielleuse.
Oui. Mais il a aussi c'est un peu le comic relief aussi dans le procès. Hein. Là où on rit pendant le film.
Humour noir, mais humour effectivement un peu. Ça fait du bien un petit peu de souffrir effectivement par moment. Merci beaucoup à tous les trois pour cette première critique par le comptoir du cinéma, encore en salle partout. Ne tardez plus si vous n'y êtes pas déjà allé. Et avant de conclure l'émission, vos critiques vous donneront leurs conseils de cinéma. Et on commence avec Lucie.
Alors, moi, je fais la promo de Champ Libre, mais je me dis tant qu'à faire. Il y a du cinéma à l'ENS. Il y a le cycle Duel qui arrive, enfin qui est toujours en cours. Vous avez Une séparation le 11 octobre de Asghar Farhadi, qui est un super film iranien. Vraiment, si vous avez aimé Anatomie d'une chute, c'est l'anatomie d'une société à travers un banal incident domestique entre un voisin et un mari, et avec l'enfant au milieu, il y a un couple qui se sépare, il y en a un qui veut aller en France, il y en a un qui veut rester en Iran, il y a la gamine au milieu, et c'est vraiment c'est plus fort qu'Anatomie d'une chute, mais ça traite un peu des mêmes thèmes, et ça fait vraiment le portrait entier d'une société. Donc ça, je vous conseille. Après, il y aura un western, a priori Duel au soleil, mais on verra si on a les droits. Et The Shop Around the Corner de Ernest Lubitsch, qui est une super comédie romantique entre amour et haine, avec deux personnes qui s'aiment pas au travail, qui s'envoient des lettres, et en fait, ils s'aiment, mais dans leurs lettres, et un jour, ils vont comprendre. Et voilà, je vous conseille d'aller voir tout ça, d'aller voir Les Cités Muses, c'est toute la semaine. Il y a Conte d'été, Monsieur Hulot, No Country for Old Men, et L'île au trésor demain. Merci.
Père, merci beaucoup. Donc,
j'approuve le programme de Champ Libre, par ailleurs, sur les films diffusés cette semaine. Alors moi, c'est une recommandation tout à fait classique. En ce moment, à l'Institut Lumière, il y a une rétrospective sur David Lynch. Moi, j'aime énormément le cinéma de Lynch. Enfin, j'ai découvert avec Sailor et Lula, et c'est possiblement un de mes films favoris. Mais j'aime vraiment le surréalisme, etc. On peut avoir mille interprétations des films de Lynch, mais moi, celle qui me fascine le plus, c'est toujours les interprétations psychanalytiques. Et j'insiste sur psychanalytique et pas psychiatrique, bien psychanalytique. Et une profondeur là-dessus sur les interprétations qui est juste fascinante. Et j'ai un deuxième conseil, cette fois-ci pour le futur. Cette semaine, il y a la bande-annonce du prochain film de Bruno Dumont qui est tombé. Et moi, c'est vrai que j'aime énormément Bruno Dumont. Donc je vous conseille d'aller regarder cette bande-annonce. C'est des Star Wars filmés dans le nord de la France par Bruno Dumont. Donc ça ne peut que être fantastique, à mon sens. Donc si vous ne connaissez pas Bruno Dumont, allez voir ses films, c'est juste fabuleux.
Ouais. Merci beaucoup, Chérine.
Moi, c'est aussi en lien avec l'Institut Lumière, vraiment la pub de l'Institut Lumière ce soir. Mon conseil, c'est d'aller voir la rétrospective Annie Girardot à l'Institut Lumière. C'est une comédienne que je trouve bouleversante, qui a été très très populaire dans les années 70 et qui a été un petit peu oubliée dans les années 90 et qui est vraiment maintenant est célébrée, mise à l'honneur. Et c'est une belle chose, c'est une bonne chose, je trouve, de la redécouvrir. Et parmi les films qui sont projetés, alors il y a Rocco et ses frères que je suis allée voir samedi, qui vous fait vaciller à la sortie du cinéma. Vraiment, vous sortez du cinéma, vous savez plus marcher, vous savez plus comment vous appelez. C'est voilà. Il y a aussi Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause d'Audiard, Un homme qui me plaît de Claude Lelouch et Tendre poulet de Philippe de Broca. Alors foncez-y.
Merci beaucoup. Et oui, gros coup de cœur pour Un homme qui me plaît. La musique d'Un homme qui me plaît, notamment, est très belle. Et enfin, mon conseil à moi, pour changer, c'est aussi à l'Institut Lumière, mais c'est encore quelque chose d'autre. C'est la nuit Nicolas Cage, le 30 septembre prochain. À partir de 20h, l'Institut projette 4 films importants dans la carrière de cet acteur éclectique, hein, culte autant pour les mêmes que ses films plus ou moins nanardesques ont pu inspirer, que pour ses performances véritablement remarquables de profondeur ou de grande comédie. Celles des films qui seront donc à l'affiche de cette soirée, successivement donc Lord of War, Volte-Face, Arizona Junior et Les Ailes de l'Enfer. L'occasion de voir ou revoir sur grand écran des explosions spectaculaires, bien sûr. Mais franchement, allez-y, ne serait-ce que pour le premier de ces films, Lord of War, qui fait le portrait d'un marchand d'armes sans scrupules, Un film d'action, bien sûr, mais qui ne néglige pas du tout ses dialogues, qui sont ciselés, vifs et très drôles. Une traque haletante de Nicolas Cage par Ethan Hawke, et surtout une dénonciation impitoyable, mais jamais démonstrative, du trafic et de la vente d'armes, où les plus cyniques ne sont pas ceux que l'on croit. À mon avis, la discussion finale vaut à elle seule le détour. Eh bien, merci à tous les trois, Chérine, Antoine et Lucie, pour ce premier numéro du Comptoir du Cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission qui sera cette fois-ci directement disponible sur transistor.fr. D'ici là, portez-vous bien, et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, bah, n'hésitez pas à nouveau. Bonne soirée à toutes et à tous.